Je ne parlerai peut-être pas de populisme, mais certainement d'une sorte de reflux sur la question des nationalismes, sur la volonté des peuples de s'exprimer par eux-mêmes en face de ce qui leur paraît une mondialisation trop grande et une certaine crainte de la mondialisation, parce que la mondialisation se montre sous l'aspect des crises. Et il faut insister sur ce point de la crise financière qui date des années 2007-2008, mais qui se sont répercutées sur l'année 2010, évidemment, et dont les solutions n'ont pas été trouvées pendant cette année 2010. C'est-à-dire ce qu'on attendait comme prise de position de l'ONU, comme prise de position des banques sur la gestion des banques, n'a pas été réalisée. On a des bonus qui sont encore largement distribués, on a des banques qui prennent encore trop d'emprunts vers l'extérieur et on a vu comment, en période de crise, notre système international n'arrive pas à prendre des mesures assez strictes sur la gestion commune et les réactions de la population. C'est en effet, on pourrait parler de populisme, mais je n'aime pas trop ce mot qui a des connotations extrêmement multiples.
Vous parlez des difficultés à faire face à la crise économique. Cela trahit-il un affaiblissement du pouvoir politique auquel feraient justement écho ces prises de parole de la population ?
Il est clair que les pouvoirs politiques nationaux n'ont pas les moyens, finalement, de réagir face au grand pouvoir de l'économie et à la mondialisation par les banques. Elles n'ont pas les moyens et elles n'ont pas la véritable volonté politique de donner des règles aux banques et d'orienter l'ensemble de l'économie. En fait, il n'y a pas de la part des pouvoirs politiques nationaux, la volonté de se donner des capacités de gérer par une sorte de gouvernance mondiale ces grands phénomènes de la mondialisation économique. Et c'est peut-être la difficulté, c'est-à-dire que les peuples, eux, ne comprennent pas non plus cette nécessité, et donc il y a une espèce d'alliance entre les peuples qui ont peur de cette mondialisation et les gouvernements qui n'en veulent pas vraiment non plus. Alors qu'il faudrait au contraire, quand on raisonne et qu'on réfléchit un peu froidement à l'ensemble de ces questions-là, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, il nous faudrait des règles supplémentaires, des règles plus fortes, notamment dans ce qu'on a connu récemment sur les crises grecques, irlandaises, portugaises. Chacun sait qu'il faudrait des règles financières plus fortes à l'intérieur même de l'Europe. Autant on le sait de manière raisonnée, autant la peur fait que autant les gouvernements que les populations ne veulent pas aller dans cette ligne de règles communes et malheureusement, nous n'avons pas les instruments suffisants pour les affronter les crises.
Vous l'avez dit, beaucoup appellent à une gouvernance mondiale comme le pape ou d'autres leaders. Cette gouvernance est-elle possible dans l'état actuel des choses ?
Mais cette gouvernance serait possible, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir ce qu'on entend par cette gouvernance mondiale. Il faudrait que ce soit une combinaison d'actions qui viennent à la fois de l'ONU, mais qui viennent surtout des agences spécialisées, qui viennent de la part des banques, qui viennent de l'ensemble des gouvernements, pour qu'il y ait une espèce de conjonction d'actions communes vers des décisions qui concernent notre système économique mondial. Ça ne vient pas d'un seul acteur en même temps, ça vient d'une multitude d'acteurs. Mais le problème, c'est que ces nombreux acteurs ne veulent pas faire ses pas vers cette gouvernance mondiale. Donc c'est là que nous avons une difficulté. On le voit par exemple sur la question du climat. Il faudrait une gouvernance mondiale sur le climat. En 2010, on a eu deux événements. Copenhague qui a été un échec et la conférence récente de Cancun où on a semble-t-il eu un meilleur succès parce qu'il y avait une meilleure ambiance. Mais on voit la résistance de nombreux pays à entrer dans une logique mondiale alors qu'on sait bien que cette question du climat est une question évidemment très importante pour l'avenir. Il y a des freins nombreux à cette gouvernance mondiale qu'il faut pourtant mettre en place petit à petit.
Quels sont les freins qui ont justement fait obstacle cette année à cette gouvernance mondiale ?
Ils sont multiples. Il y a d'une part les opinions publiques qui ont peur, bon, mais il y a aussi ce qu'on appelle les grands lobbies, notamment pour la question du climat. C'est tous ceux qui sont du côté de l'industrie, du pétrole, de l'ensemble du secteur industriel qui n'est pas très pressé à ce que l'on prenne des mesures assez strictes pour empêcher le réchauffement climatique et notamment la production de CO2. Donc il y a des intérêts économiques qui jouent dans l'ensemble de ces facteurs et pour la réforme des finances, c'est clair que ce qu'on appellerait l'industrie financière freine tout ce qu'elle peut pour qu'on ne mette pas de règles à ses activités. Donc on voit bien qu'il y a des intérêts particuliers qui ne bougeront que lorsque le pouvoir politique qui est détenteur de l'intérêt général, lorsque le pouvoir politique pourra imposer des règles plus générales. C'est l'interrogation sur le bien commun. On voit bien comment le pouvoir politique devrait agir pour ce bien commun et comment des intérêts particuliers, eux, freinent les éléments de bien commun.
Le retour aux égoïsmes nationaux est-il lié à une perte d'identité propre ?
Alors, en effet, il peut y avoir une question d'identité qui est posée dans tout ce débat que nous avons, qui est l'identité nationale ou l'identité locale, voire l'identité régionale, qui tend à se rétrécir, se renforcer sur elle-même face à la mondialisation. C'est les problèmes de cette mondialisation que nous expérimentons au niveau économique et au niveau culturel. C'est que comme elle fait peur, comme on ne sait pas très bien comment la gérer, les populations tendent à se renfermer sur elles-mêmes et sur leur identité. En un sens, c'est compréhensible, et ce n'est pas forcément mauvais, mais ça devient mauvais et vraiment problématique s'il y a une lutte entre des identités. C'est-à-dire, c'est l'identité de mon continent contre un autre continent, c'est une défense des intérêts, soit nationaux, soit continentaux, contre les autres, alors qu'on pourrait concevoir que des identités qui existent, et elles ont le droit d'exister, entrent en dialogue, elles entrent en discussion, elles cherchent une sorte d'intérêt commun à l'ensemble de ces identités pour gérer cette communauté mondiale. Donc, on voit bien qu'il y a un danger dans ce renfermement des identités qui sont pourtant nécessaires, car il faut bien avoir une identité et savoir qui on est.
Les discours populistes ont quand même gagné du terrain cette année dans plusieurs pays en Europe. Comment expliquer que ces discours trouvent un écho aussi large ?
Ces discours populistes que l'on voit notamment en Europe du Nord, qui ont trouvé des échos assez forts, c'est vraiment la peur de la crise, la peur de voir sa situation économique baisser, être en diminution, être en difficulté, ce qu'on pourrait dire tous les avantages acquis que nous avons comme Européens. On voit bien une réaction des populations, c'est d'entrer dans une espèce de démagogie facile, qui est une manière de refuser de regarder les problèmes en face. Donc là, je crois qu'il faut que les gouvernements et que l'ensemble de la population, de ceux qui essayent de raisonner, puissent expliquer à chacun que si nous sommes dans des difficultés économiques sérieuses, ce n'est pas une raison de nous lancer dans des propos démagogiques, mais c'est une volonté de prendre ces questions vraiment de fond et voir quelles sont les solutions pour les résoudre, quitte à ce que dans l'avenir, notamment en période de crise et en période de réchauffement climatique, quitte à ce que notre niveau de vie ne soit plus en croissance permanente. Donc il faudra là-dessus avoir un sens assez raisonnable de la politique et de l'avenir.